Seigneur notre Dieu, certains textes bibliques sont pour nous difficiles à comprendre. Et d'autres paraissent plus simples. Mais si on veut bien se pencher sur l'ensemble des textes, alors vraiment, il faut que ton esprit vienne nous guider pour comprendre ce que tu as voulu nous dire à travers ces textes. Seigneur, que ton esprit vienne sur nous tous. Amen. Je ne vais vous lire qu'un seul texte. Et en plus, dans l'évangile de Luc, je n'ai pas pris toute la partie qu'habituellement on lit. Donc c'est en Luc au chapitre 16, et je vais lire uniquement les versets 1 à 8. Alors que bien souvent on lit les versets 1 à 13. Donc j'ai choisi de ne pas vous lire les versets 9 à 13, parce que la prédication ne portera pas sur cette partie. Donc je vous dis, Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Jésus disait aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui fut accusé auprès de lui de dissiper ses biens. Il le fit venir et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rencontre de ton administration, car tu ne pourras plus désormais administrer mes biens. L'économe se dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte mon emploi? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Et j'ai honte de mendier. Je sais ce que je ferai, afin que quand j'aurai été renvoyé de mon emploi, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Alors il fit venir séparément chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Le débiteur répondit, « 100 mesures d'huile. » L'économe lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris vite, 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Celui-ci répondit, « 100 mesures de froment. » L'économe lui dit, « Prends ton billet et écris, 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi avec prudence, car les enfants de ce siècle, dans leur rapport avec les hommes de leur génération, sont plus prudents que les enfants de lumière. Comment appréhendez-vous ce passage de l'évangile de Luc? Peut-être ne pouvez-vous pas répondre, car ce texte en première lecture est dérangeant et même provoquant. Il contient des phrases qui semblent choquantes au premier abord. De plus, il peut donner lieu à de nombreuses interprétations. Et c'est déjà notable rien que dans les titres donnés à la parabole. La parabole de l'intendant habile, l'intendant infidèle et d'autres. Alors, que faire d'un tel texte? L'ignorer parce qu'il paraît scandaleux? Mais c'est refuser l'évangile tel qu'il est. Le mettre de côté jusqu'à ce que quelqu'un en donne une clé de compréhension satisfaisante? Ou bien se frotter au texte, l'étudier et essayer de le comprendre avec les capacités dont nous disposons. Les difficultés de traduction proviennent de certaines expressions qui renvoient à des nuances qui ne sont pas toujours faciles à appréhender et à des mots grecs importants du texte qui ont plusieurs sens. Aujourd'hui, dans notre monde, outre la pandémie, il y a focalisation sur les problèmes d'économie. L'argent qui permet d'être les échanges semble être la motivation principale de nombreux secteurs d'activité. Dans ce récit, l'objet qui donne lieu à des échanges concerne les biens matériels et les différents personnages réagissent les uns par rapport aux autres. Mais en première lecture, ce qui capte notre attention, c'est ce qui est perçu comme la malhonnêteté du gérant. Alors le lecteur ou l'auditeur a tendance, de façon facile, à porter un jugement défavorable à l'égard de ce gérant et être scandalisé parce que son attitude est louée. J'ajouterai que ce texte y comporte très peu d'éléments concrets. Il suggère les choses bien plus qu'il ne les dit. Et de plus, si on fait une lecture en supprimant la louange exprimée au verset 8, le texte paraît beaucoup plus facilement audible et acceptable et ne choque plus personne. Et l'enchaînement entre la parabole et la série de sentences sur l'usage de l'argent qui suit paraît tout à fait logique. Mais voilà, le texte contente cette louange du verset 8. Et on ne peut pas faire comme s'il n'y figurait pas. Et c'est là la plus grosse difficulté de ce texte. Alors si je reviens à la situation de départ, elle est relativement simple. L'accusation, c'est un discours prononcé par une personne dont on ne sait strictement rien, qui a prévenu l'homme dont on sait simplement qu'il était riche. Et le texte ne dit pas non plus si l'accusation portée est une accusation à tort ou à raison. Mais d'une façon générale, rien que le mot accusation évoque en lui-même un acte fautif et répréhensible. Ce qui suggère que le lieutenant est malhonnête ou a mal géré les biens dont il était chargé de s'occuper. Et que de toute façon, la gestion n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Et puis dans ce récit, il n'y a pas vraiment de comptabilité, il n'y a pas de vérification des comptes. Et l'homme riche, il n'a rien vérifié et il accorde directement crédit à ce qui lui était rapporté. Il n'en vérifie pas le bien fondé et il se contente de questionner son gérant au sujet qu'il a entendu. Qu'est-ce que j'entends à ton sujet? Rends compte de ta gestion. Et dans la foulée, d'une façon très expéditive et irrévocable, il lui retire la gérance. Et l'homme riche, rien que sur l'accusation, a peut-être perdu aussi la confiance qu'il avait dans son gérant. On sait seulement que l'homme riche informe le gérant qu'il a entendu des propos qui l'accusent de disperser ses biens. Mais on ne sait pas exactement, parce que le texte ne le dit pas, ce que le riche a rapporté au gérant. Puisqu'il dit simplement, qu'est-ce que j'entends? C'est vrai? C'est faux? Dis-moi ce qu'il faut que je comprenne. Rends compte de ta gestion. Et si on doit rendre compte de la gestion, c'est que la gestion, on ne sait pas comment elle est bien. Et la façon dont le gérant a dispersé les biens, c'est pas expliqué non plus. pour vous dire que dans le texte, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Alors, il n'y a pas lieu de supposer quoi que ce soit à ce sujet. Et puis, en fait, quand on suit le texte, il ne semble pas enrichi en prenant sur les biens du maître. Puisque par la suite, il veut essayer de trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Et s'il s'était enrichi, il dirait, ben voilà, je me suis enrichi, maintenant je peux me reposer, je vais aller chez moi et je vais la couler douce. Donc il a peut-être simplement été incompétent. Ou peut-être qu'il a fait la fête, que sais-je. Le texte ne précise pas non plus si le gérant a cherché à se défendre de l'accusation portée contre lui, ni s'il a cherché à convaincre l'homme riche de ne pas lui retirer la gérance, ce qui paraîtrait une situation tout à fait normale. Bien souvent, quand on est accusé de quelque chose, on essaye de se défendre. Là, le texte, il dit rien. Il semble simplement prendre acte de la perte de la gérance. Et tout cela est condensé de façon très brève, en seulement deux versets. C'est comme l'acte 1 de la parabole qui expose la situation initiale. D'ailleurs, s'il y a malhonnêteté de la part du gérant, elle est sans réelle importance, puisque c'est son incroyable promptitude à réagir qui est développée et mise au centre de la parabole. Pour le gérant, le changement de situation qu'il va devoir assumer le pousse à la réflexion en prenant en compte ses propres capacités et sa propre façon de voir les choses. Il est lucide sur lui-même. Tout d'abord, il définit clairement le problème en termes concrets. Il ne reste pas à ne rien faire. Il cherche une alternative. Il examine différentes solutions possibles pour trouver un moyen de subvenir à ses besoins, à commencer par la nourriture. Et bêcher ou mendier sont des alternatives qu'il ne retient pas. Il se propose de s'arranger pour vivre grâce à la reconnaissance des autres. Bêcher, mais vous n'y pensez pas. Une situation manuelle et physique dont il ne lui paraît pas réalisable. Il ne s'en sent pas capable, il n'en a pas la force. C'est trop fatigant. Mendier, mais vous n'y pensez pas non plus. Une solution psychologique qui n'est pas envisageable à cause de la honte, de la fierté. Et sa fierté, elle lui interdit d'être dans une position de demandeur, de quémander. Donc il prend le risque d'un manque d'argent pour construire autre chose. Il quitte son passé, celui où il gérait les biens, pour vivre autre chose et donc vivre le présent. Alors, compte tenu des deux solutions qu'il a rejetées, et qui sont des solutions qui relèvent du registre de l'argent, il va regarder du registre relationnel. Il quitte le côté économique pour aller vers le relationnel. Se faire des relations. Alors voilà une solution qui évite les inconvénients des deux autres. Et qui lui semble suffisamment acceptable pour qu'il prenne cette solution-là. Donc c'est se tourner vers un avenir différent. Mais dans ce registre des relations, pour être accueilli, il faut avoir de bonnes relations. Parce que si vous avez de mauvaises relations, vous n'allez pas être accueilli. Ainsi donc, il lui faut se faire des amis qui vont pouvoir lui venir en aide. Et vers qui il se tourne? Ben, uniquement vers les personnes avec qui il est en contact. Donc, les débiteurs. Alors, un gérant, il avait une situation intermédiaire entre le riche et les débiteurs. Alors c'était peut-être une situation enviée, mais qui n'attirait probablement pas la sympathie. Et pourtant, il va se servir de cette situation pendant laquelle il est encore en poste. Parce que pour rendre compte de sa gestion, pour le petit temps, donc il n'est pas mis à la porte du jour au lendemain, il y a, je ne sais pas combien de temps il y a, mais il en profite. Et par l'intermédiaire de la situation économique, il va essayer d'établir une nouvelle relation avec les débiteurs. Et une fois que la tactique est arrêtée, ben, il faut la mettre en œuvre. Alors, il opte pour la diminution des dettes de ceux qui en ont vis-à-vis de l'homme riche. Et il pense qu'avec une remise importante des dettes qu'il propose aux débiteurs, eh ben, ceux-là seront forcément reconnaissants, redevables, et ils vont l'accueillir en tant que. Le gérant leur propose d'écrire une somme due nettement plus faible que celle que chacun dit devoir. On ignore, parce que le texte ne le précise pas non plus, si la somme déclarée oralement par le débiteur était juste ou pas. Et la question se pose de savoir si en agissant ainsi, le gérant est malhonnête ou non. Donc certains commentateurs, et dans certaines bibles plutôt que ça, pensent qu'il a agi conformément à un moyen habituel de contourner la loi mosaïque qui interdisait des intérêts aux compatriotes juifs. Et c'est clairement dit en Exode 22, les versets 24 et 26, et en Lévitique, au chapitre 25, le verset 36. Alors, si tel est le cas, peut-être que si le gérant a diminué les créances, c'est parce qu'au préalable, elles ont été préalablement gonflées et ne correspondaient pas à ce qui était vraiment dû. Vous savez, quand vous faites les soldes, il y a des fois, je ne suis pas sûre que ce soit des vrais soldes. Et dans ce cas, s'il ne réclame que ce qui était vraiment dû, il renonce à ses intérêts, parce que c'était des intérêts à ce moment-là pour lui, et il ne laisse personne. Il ne laisse pas le riche, qui va effectivement recevoir ce qui lui était dû, et il ne laisse pas les débiteurs, qui ne vont payer que ce qu'ils devaient réellement. La seule chose que l'on sait en ce qui concerne les débiteurs, c'est qu'ils répondent à la question du gérant, mais il n'est pas dit explicitement que chaque débiteur écrit une somme largement réduite de sa dette. Mais c'est ce que nous, en lisant le texte, on comprend spontanément. Donc il paraît à peu près certain que celui qui se voit remettre une dette importante sera reconnaissant et recevra bien celui qui a remis la dette. Alors si on se laisse entraîner dans ce récit tel qu'il se présente, avec les mots d'aujourd'hui, on pourrait entendre ce texte comme une histoire comportant une accusation sans preuve, un licenciement abusif, un vol des biens d'un riche, des faux en écriture, tous des éléments qui semblent relatifs à la malhonnêteté qui est nécessaire à la tension dramatique du récit, mais également dans notre société ordinaire qui sont plutôt des sujets de scandale. Les scandales économiques et financiers, il y en a plein dans notre monde. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler. Mais voilà, le texte ne s'arrête pas là. Il se poursuit par des propos du riche. On ne sait pas comment il a su agir de son ancien gérant, et il fait l'éloge de sa façon d'agir. Et de fait, c'est cet élément de louange qui semble complètement décalé par rapport à ce qui est le centre du récit. Cette louange, elle se place en contradiction totale avec le premier ressenti du lecteur. Tout suggère que le gérant est malhonnête. Alors le fait que le maître loue sa façon d'agir est provoquant. C'est choquant. Et cette louange, elle semble complètement renverser l'ordre des valeurs. Il y a quelque chose qui nous semble que ça va pas, quoi. Mais on ne peut pas faire, je vous le redis, comme si cette louange n'existait pas. Alors, le riche, il ne fait pas porter sa louange sur le gérant. Il fait porter sa louange sur la façon d'agir du gérant, pas sur l'homme. Et il n'y a aucune désapprobation sur le plan moral. Ce n'est pas une louange qui va approuver le gérant sur le plan moral. Donc, je vous le redis, selon les dispositions juridiques de l'époque, l'attitude du gérant semble complètement légale. Et si elle est complètement légale, l'appréciation du riche est à comprendre comme une remarque absolument sérieuse. Et donc à ce moment-là, il est envisageable de ne pas considérer le gérant comme malhonnête, ni comme injuste, mais comme un homme ayant simplement pris au sérieux son renvoi, ayant fait son propre bilan de compétences, et sachant agir en conséquence pour faire face à une situation difficile. Alors, il y a une expression qui m'a bien interpellée dans ce texte, c'est que dans le texte, Luc n'utilise pas l'adjectif injuste. Le gérant, il n'est pas dit injuste, il est dit gérant de l'injustice. Donc, je me suis dit, si Luc n'a pas utilisé l'adjectif, c'est qu'il y a forcément une nuance. Et en fin de compte, Luc, il utilise un génitif descriptif ou de qualité et qui doit recevoir du contexte sa nuance exacte. Alors, comment doit-on comprendre cette nuance? Est-ce qu'il est dit gérant de l'injustice parce qu'il accepte d'utiliser l'injustice d'un système considéré comme légal, mais qui, même en étant tout à fait légal, est injuste vis-à-vis des débiteurs? Vous voulez que je redise?
Oui.
Luc, il aurait pu écrire dans sa louange qu'il parlait du gérant injuste. Parce que, en grec, l'adjectif injuste existe. Mais ça, il l'a laissé de côté. Il a mis une expression « maître de l'injustice ». Donc, c'est un complément de nom, ce que l'on appelle un génitif, qui est un génitif qui décrit ou un complément de qualité. Donc, ça va donner une nuance différente de celle de l'adjectif. C'est pas la même chose. Donc, il faut comprendre. Et c'est là où la difficulté. Donc, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'il dit « maître de l'injustice » ? Est-ce que ce gérant, il est maître de l'injustice parce qu'il utilise un système où l'injustice est de règle ? Si c'est légal de gonfler volontairement les dettes et de faire payer aux débiteurs des dettes plus élevées que ce qu'ils auraient dû, le système, il est injuste. Et le gérant, ben, jusqu'à présent, il a utilisé ce système-là. Alors, ça, c'est la façon dont moi je le comprends. Hein. Vous pouvez peut-être le comprendre autrement. Hein. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Il faut que vous soyez indulgents avec moi. Puis, après, il suit un commentaire immédiat dont le seul lien direct avec ce qui précède peut être le terme avisé. En effet, les fils de ce temps sont plus avisés vis-à-vis des hommes de leur génération que les fils de la lumière. Parce que le gérant, dans la louange, il est dit avisé. Mais si vous présentez les seules motivations du gérant comme des motivations économiques et matérialistes, c'est faire du gérant un fils de ce temps présent. Et Luc, il fait une opposition entre les fils de ce temps présent et les fils de lumière. Les fils de lumière, compris comme ceux qui reçoivent la lumière de Dieu. Donc ce texte, il vient nous dire cette opposition qui est fondamentale dans la manière d'être, dans les motivations et dans les comportements. Alors le récit, il ne dit pas en quoi les fils de lumière sont plus ou moins avisés. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de fois où je vous ai dit que le texte ne disait pas... Le texte, il suggère beaucoup de choses. Il ne dit pas vraiment les choses. Voilà. Cependant, l'exemple du gérant montre que les enfants de ce temps agissent avec toute leur ingéniosité pour bien vivre sur cette terre. Le gérant, il cherche qu'à être bien, avoir de l'argent, avoir des relations, être bien sur cette terre. Qu'en est-il des enfants de lumière pour leur vie en relation avec Dieu? Se préoccupent-ils de leur vie spirituelle? Ont-ils l'espérance du royaume de Dieu? Mettent-ils toute leur force, tout leur cœur, leur âme et leur pensée pour vivre selon la volonté de Dieu? Ainsi donc, ce verset, il vient nous questionner sur ce qui est réellement la source de nos actes et sur nos capacités à poser des actes gratuits de fraternité vis-à-vis d'autrui. C'est pour ça que ce verset, il est fondamental dans cette parabole. On ne peut pas le supprimer. Alors la trame économique du récit, elle n'est là que pour nous interpeller, pour nous choquer, pour nous dire « réfléchissez un petit peu ». La parabole, elle met pas du tout l'accent sur l'argent, ni sur l'aspect moral, mais sur ce qui est le plus essentiel de nos vies. Ce qui semble être le sens du récit, le changement de comportement durant. Que vais-je faire? Comment vais-je retourner cette situation où je perds mon travail pour subvenir à mes besoins fondamentaux? C'est ça qui se paraît être le... Alors je vais attirer votre attention sur le contexte, si j'ose dire. D'habitude, je mets le contexte en début de parler de prédication, mais là je mets à la fin. Le fils prodigue et l'intendant dilapident tous les deux des biens et se retrouvent dans une situation matérielle difficile pour subvenir correctement leurs besoins fondamentaux de nourriture. Et face à cette situation, tous les deux se disent en eux-mêmes. Et ça, c'est. Alors là, c'est vraiment écrit. Se disent en eux-mêmes. Que faire? Toutefois, le fils a certainement une réflexion plus intérieure et plus personnelle. Peut-être parce que la relation qu'il envisage de renouer, elle est avec son père. Et donc, la relation au père, elle est forcément plus forte que la relation qu'un gérant peut avoir avec des débiteurs. Débiteur, ouais, c'est une tierce personne, tandis que le père, c'est quand même un rapport personnel avec le père. Donc les deux réponses, elles ne renvoient pas à des relations économiques, mais à des solutions en rapport avec les relations humaines. Et on peut entendre le fait de réfléchir et de changer sa façon d'agir comme quelque chose du côté du changement du regard, d'une conversion. Donc ça, c'était pour la parabole qui est juste avant. La parabole qui est juste après, c'est la parabole du riche et du pauvre Lazare. Elle me paraît être allée dans le même sens. Parce que celui qui est en enfer, il demande à Lazare de prévenir ses frères pour qu'ils se convertissent. Et on lui dit, oui, mais attends, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, ça va aussi dans le sens d'un changement de regard et d'une conversion. Donc, en fait, la parabole, elle ouvre sur la capacité à se faire des amis par le partage, l'accueil, mais plus encore par le fruit de l'esprit, par la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience et surtout l'amour. Alors, quel que soit notre parcours de vie, nous pouvons opter pour un comportement plus ouvert, plus bienveillant sur la relation à l'autre. Dieu nous donne son amour. Alors nous aussi, nous avons à le transmettre, à le répandre, cet amour de Dieu pour tous. Faisons-nous des amis par l'amour et n'attendons de nos relations que la joie de vivre cette relation dans la grâce de Dieu. Amen.